Nous travaillons dans l'école de la République.
Et on remercie vraiment les enseignants.
L'entrée de l'enfant dans l'école ne règle pas tout.
Sans les parents, on ne peut rien faire.
On est, je crois, sur la bonne voie.
Ça vous concerne, le magazine de l'éducation. C'est avec Joanne, la troisième semaine du mois, le mardi à 10h15, le mercredi à 19h15, le jeudi à 15h et le dimanche à 13h sur Fréquence Sillée.
L'école, nous le savons, peut encore mieux faire.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à vous, chers auditeurs, pour la première émission de l'année de Ça vous concerne, le magazine de l'éducation. Pour cette nouvelle saison, je serai désormais en votre compagnie tous les mois pendant la troisième semaine de chaque mois. Notez bien le rendez-vous, je parlerai bien évidemment éducation et vous proposera à cette occasion des décryptages de ces multiples enjeux. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que ça vous concerne. Aujourd'hui, abordons la question de l'orientation. Quelle filière convient le mieux à votre enfant ? Doit-il continuer dans l'enseignement général ? Trouvera-t-il un emploi après ses études ? Et s'il ne veut pas en faire ? Bref, autant de questions qui peuvent angoisser même les parents les plus enclins à gérer leur stress quotidien. Cette semaine, justement, est organisé le 59e Congrès national des conseillers d'orientation psychologues du 22 au 24 septembre. Et ça se passe au Mans. Un congrès à destination des professionnels. Nous avons rencontré Jacques Volou, son coordinateur, ainsi que Nadège Mudès, directrice du CIO Le Mans Centre. Alors, pour rappel, le CIO, ça veut dire Centre d'information et d'orientation. Et vous verrez que l'orientation, c'est un sujet qui, au final, concerne tout le monde. Alors l'ACOP, c'est une association nationale des conseillers d'orientation psychologues dont vous coordonnez, Jacques Volou, le 59e congrès national. Quelle est la vocation de cette association ?
Alors c'est une vieille association car le corps des conseillers d'orientation, qu'on appelle maintenant psychologues, est assez ancien. C'est à la fin des années 1920, au début des années 1930. Une association qui est censée, comme toute association professionnelle en fait, la promouvoir et défendre les intérêts de la profession. Je dirais ça de manière un peu banale. Et la profession étant une profession de conseiller d'orientation psychologue, de l'éducation nationale. Les conseillers d'orientation psychologue, on en a à peine 5000 en France. 500 CIO, centres d'information et d'orientation. Si on prend l'exemple des Pays de la Loire, dans cette académie de Nantes, il y a 20 CIO et 140 conseillers d'orientation psychologue.
Alors ce congrès se déroule cette année au Mans, du 22 au 24 septembre, au programme des conférences, des débats, des ateliers de travail, des moments de réflexion. Quel est l'objectif visé par ce 59e congrès ?
Réunir la profession sur un thème, la faire échanger là-dessus et inviter à l'échange d'autres partenaires. Donc le thème c'est conseiller en temps de crise et d'incertitude. Thème que l'association a choisi avec l'équipe d'organisation donc des CIO de la Sarthe. Une profession a besoin de se retrouver à date régulière chez nous, c'est tous les ans dans une ville différente. L'année dernière c'était Caen, l'année prochaine ce sera Bordeaux, sur des thèmes différents. Elle choisit un thème, elle fait venir des intervenants d'horizons divers, des français, des pas français d'ailleurs. Là il y aura même une table ronde pas française du tout, regard européen sur le conseil le jeudi 23 fin de matinée. Pour réfléchir, amener des éléments nouveaux, ou bien reconsidérer en leur revisitant l'activité actuelle. Puis l'autre aspect, c'est les échanges entre collègues, type auberge espagnole, comme il m'arrive de dire, où chacun amène son manger, son boire, et puis on échange. Qu'est-ce que j'ai fait dans telle expérience ? Est-ce que ça peut intéresser quelqu'un d'autre ? Non, moi je fais autre chose, et on y va. Le dernier aspect, c'est on ouvre, comme je disais, on ouvre. C'est ce qu'on nous ferons le vendredi 24 et on ouvre à des partenaires, ce sera au palais des congrès, cette question du conseil en temps de crise et d'incertitude.
Vous le disiez à l'instant, c'est un congrès destiné aux professionnels de l'orientation et pourtant, le vendredi, les partenaires de l'orientation justement y ont aussi accès. Pour quelle raison leur ouvrir les portes du congrès ?
Ben d'abord parce qu'on n'est pas les seuls à faire de l'orientation ou du conseil en orientation. Il y a du conseil en orientation ailleurs. Conseiller en carrière, conseiller en bilan de compétences, conseiller en, Bref, il y a beaucoup de conseillers d'orientation qui ont des dénominations différentes, conseillers professionnels aussi, hein, dans les agences pour l'emploi. Il y a tout le réseau d'insertion des jeunes. L'orientation depuis une vingtaine d'années est très loin de se limiter à une délivrance de brochures ou un commentaire de brochures en ICEP ou à une consultation maintenant d'un site en ICEP ou autre. C'est mettre du conseil là-dedans. C'est-à-dire, on aura beau produire des tonnes, on n'en a jamais eu autant d'ailleurs, de milliers, de millions de pages écrans d'informations. L'information, d'ailleurs, n'est pas forcément la formation, et c'est pas parce qu'on est dans la surinformation qu'on est forcément bien informé. Enfin, vous devez le savoir également dans vos métiers. Le boulot des conseillers d'orientation psychologue, et notamment de ce thème, conseiller en temps de crise, c'est comment passer de l'information, justement, au conseil. Dans le conseil, il y a c'est quoi le conseil? Est-ce que c'est tenir conseil? Est-ce que c'est donner des conseils? Quand on dit ça, on dit aussi que certes, il y a une personne individuelle, il y a un sujet très particulier, qui a ses propres envies ou pas, ses projets ou pas, ses stéréotypes ou pas, qui sont différents d'ailleurs de son voisin, qui peut avoir le même âge, être dans la même classe, etc. Puis il y a aussi les parents autour de lui. Donc en fait, conseiller, en temps de crise et d'incertitude, nous faisons le pari que ça peut concerner un peu tout le monde. Nous, bien sûr, c'est un congrès de professionnels de l'orientation de l'éducation nationale, mais aussi d'autres, jusqu'aux parents d'élèves d'ailleurs, en passant par des professionnels d'autres horizons du conseil.
Donc quand on parle orientation, cela ne concerne pas uniquement les scolaires et étudiants.
Non, l'orientation est loin de se limiter à une question de jeunes. On voudrait le faire croire d'ailleurs, hein, que ce serait si simple. Au fond, vous êtes en troisième, un petit peu d'information, va voir le conseiller d'orientation psychologue, un ou deux conseils de classe, une fiche navette entre la famille, l'établissement, les parents, et hop, magiquement, on choisit. On va dire pour la vie, ou en tout cas pour pas mal d'années, et après, vogue la galère, en quelque sorte, quelque chose. Ben non, c'est plus comme ça que ça se passe. C'est devenu complètement obsolète, ce schéma, et pourtant, il continue à naviguer un peu dans les têtes, alors que c'est un schéma devenu complètement obsolète. C'est pour ça qu'on a nécessité à ouvrir ce thème à d'autres qu'à nous, et nous continuerons à le faire parce que les entreprises et les représentants des entreprises ont des raisons de réfléchir aussi à ça, parce que les établissements consulaires, parce que les parents d'élèves, parce que, bref, les établissements aussi, on a invité les chefs d'établissement et des collaborateurs des chefs d'établissement dans cette journée du vendredi 24 septembre, c'est aussi leur affaire.
En nous focalisant maintenant un peu plus sur les scolaires justement, comment faire pour bien orienter les jeunes? On va demander à Nadège Mudès, directrice du CIO Le Mans Centre.
Bien orienté, je pense que mes collègues conseillers d'orientation psychologues commenceraient par vous répondre qu'on n'oriente pas. Hein. On tient conseil avec eux, on va essayer de passer justement de l'information à cette notion de projet, et en essayant de rendre un élève, un jeune, un adulte partie prenante de ce projet. Donc c'est à lui de le construire. Et nous, on est là pour essayer d'apporter par différentes techniques, hein, entretien ou autre, une méthodologie qui va permettre à la personne d'être capable de produire de l'analyse sur ce qu'elle sait d'elle-même, sur ce qu'elle sait d'une formation, sur ce qu'elle sait d'un contexte économique, et l'amener à prendre une décision et à agir. Hein, c'est ça, en fait.
Dans conseiller d'orientation psychologue, il y a psychologue. Quelle place concrètement prend ce volet psychologie?
C'est varié, hein, en fonction des situations. On va utiliser plus ou moins les compétences de psychologue en fonction des situations auxquelles on fait face. Mais fondamentalement, on va être très souvent dans une relation duelle avec une personne. Et les compétences de psychologue, ça va être capable de mener un entretien, d'être dans une conduite d'entretien, avec une posture qui sera une posture de neutralité, où on va pas produire de jugement, et une posture où on va être capable de repérer dans le discours d'une personne des éléments importants qu'on va essayer de renvoyer en miroir.
Ouais, alors ça, c'est surtout valable pour les CIO. À l'école, les conditions ne sont pas vraiment les mêmes. Beaucoup d'élèves à recevoir en entretien, peu de personnel pour les mener, donc des rencontres courtes. Quel regard vous portez à ce sujet? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça porte ses fruits, l'orientation à l'école?
D'abord, les élèves en établissement seront tous vus de façon collective, enfin au moins à un certain moment palier d'orientation. Et puis ensuite, c'est une dynamique qui va se créer entre l'élève et le conseiller, la conseillère d'orientation psychologue. Déjà, on est beaucoup sur le mode du volontariat, c'est-à-dire que les élèves décident de venir nous voir. Bon. quelquefois un petit peu encouragés par les professeurs, par la famille. Et ces techniques qu'on décrit, on les utilise aussi avec des adolescents de 15 ans, même si c'est plus difficile.
On peut dire en tout cas que le conseiller d'orientation scolaire n'est pas le seul interlocuteur au final. Il faut aussi se renseigner en dehors des murs de l'école, par exemple au CIO.
Oui, puisque déjà un élève, l'élève il vit dans un système. Son système c'est l'école et qui il est en tant qu'élève. Son système c'est lui en tant qu'enfant de sa famille. Donc il faut travailler effectivement à plusieurs. Et puis on n'est pas détenteur d'un savoir, on n'est pas des prescripteurs. Et on va au contraire essayer d'amener l'élève à être acteur, à aller s'informer, à aller rencontrer un professionnel, à aller visiter un établissement et à partir de tous les éléments qu'il a recueillis, d'être capable d'analyser ce qui va lui convenir ou pas. Hein, donc on n'a pas à travailler seul, au contraire, on a à travailler en réseau avec toutes les personnes qui constituent l'entourage de l'élève.
Quels sont les outils qui permettent aujourd'hui aux jeunes de devenir acteurs de leur formation ?
Donc les outils, bon, d'abord au niveau de l'information, alors ils ont une multitude. Nous on voit bien que les jeunes qu'on reçoit ne viennent absolument pas sur une problématique d'information, ils l'ont déjà, mais où ils attendent de nous justement qu'on soit capable de les aider à l'analyser. Et c'est ce qu'ils attendent, c'est du conseil, quoi. C'est clair, net et précis. Et je pense que la multitude des sources d'information, ça nous a renforcé dans notre professionnalité qui est de conseiller. Tenir conseil, parce que ça c'est une formule que j'aime bien, conseiller ça a un côté, je te donne le conseil de faire ça. Moi, la personne, je la connais pas intimement, donc je vois pas comment en une heure ou deux heures, si je la vois deux fois ou trois fois, je pourrais lui donner le conseil d'eux. Par contre, j'écoute qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle me dit, ce que j'arrive à percevoir, et à partir de ça, on tient conseil.
On marque une courte pause musicale, on se retrouve juste après Stylo, extrait du dernier album de Gorillaz. Vous êtes sur Fréquencillé 97.9.
Out.
Retour dans Ça vous concerne, toujours pour parler orientation, à l'occasion du 59e congrès des conseillers d'orientation psychologue qui se déroule au Mans du 22 au 24 septembre. Jacques Volou, coordinateur du congrès, quels sont les grands enjeux de l'orientation actuelle et future à l'heure de la formation tout au long de la vie ?
Réhabiliter le conseil, ça c'est évident. D'abord parce qu'il y a beaucoup de professionnels dont l'intitulé même de la profession commence par conseiller en quelque chose. Et en fait, s'interroger sur c'est quoi un conseiller ou une conseillère en quelque chose qui a à voir avec l'évolution d'une personne, que ce soit côté scolaire, universitaire, côté professionnel, côté, on va dire même vital, hein. Est-ce qu'il n'y a pas non plus du conseil à imaginer tout au long de la vie et y compris pour un troisième, voire un quatrième âge. Pour répondre encore plus précisément à votre question, il y a quand même une loi de novembre 2009 qui s'appelle la loi sur la formation et l'orientation tout au long de la vie, qui dit bien très clairement, en tout cas dans sa première dénomination, qu'il s'agit de quelque chose qui, en tout cas dans l'intention du législateur et donc de l'État et de ses représentants, de dire que c'est tout au long de la vie. Donc certes, c'est quelque chose qui va se jouer dans le champ scolaire, puisque de toute façon nous sommes en France, et qu'il y a de plus en plus, et tant mieux, je dirais, de jeunes Français et Françaises qui continuent plus longtemps qu'il y a 20 ans ou 30 ans, leur scolarité déjà pour commencer. Donc si déjà l'orientation, ça se jouait pas déjà à l'école, ça se saurait. Ça se joue encore plus à l'école aujourd'hui que ça ne se jouait à l'école il y a 20 ans, 30 ans, il y a 50 ans. Mais ça ne se joue certainement pas non plus qu'à l'école. C'est tout au long de la vie, quand on va quitter la scolarité à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, hein, vous savez qu'un certain nombre de jeunes qui est leur scolarité, qui est parfois un peu itérative, avec des allers et retours, mais bon, ça y est, je travaille, me disait ma fille encore il y a 8 jours, elle a 25 ans, mais ça c'est pas rare, c'est des choses très fréquentes, et bien ma foi, c'est pas pour autant que ça soit joué, elle le sait bien d'ailleurs, parce que vous êtes, les jeunes de cette génération-là sont dans une génération aussi, on va dire, génération précaire, génération d'interrogation, la crise, les crises, les incertitudes. Les générations des 20 ans aujourd'hui ou des 30 ans l'ont connu pratiquement depuis qu'ils sont nés. Et donc, du coup, ça va se poursuivre. Mais évidemment, ça aura aussi d'autres déclinaisons dans des périodes encore plus adultes que ces âges-là, à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans. Et quand on parle aujourd'hui d'un débat, par exemple, sur les retraites, est-ce qu'elles adviendront ? C'est aussi la question de, mais oui, si je dois être en capacité de continuer à travailler plus longtemps, on va dire, dans la soixantaine, ce qui est un cas plutôt rare aujourd'hui en France, ça pose pas que des questions de revenus hein, et de compensation, ça pose aussi des questions de est-ce que je serai encore apte à, mais si oui, est-ce que c'est pour faire la même chose que ce que je faisais quand j'avais 40 ou 50 ans, ou est-ce qu'il y aura des aménagements ou d'autres possibilités. Et là, peut-être que notre société n'est pas encore tout à fait prête, contrairement à d'autres sociétés, d'ailleurs, dans le monde, il y a d'autres sociétés qui ont réfléchi hein, à cette question mieux que nous. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour des personnes de continuer un bout de chemin, avec des compensations financières, parce qu'il faut pouvoir vivre quand même. Mais donc, c'est encore des questions de certaine manière, de conseil et d'orientation.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus une vie professionnelle pour les individus, mais des vies professionnelles. Est-ce que ça veut dire aussi qu'au final, les, entre guillemets, erreurs de parcours peuvent être des expériences enrichissantes, voire des atouts ?
Eh bien, c'est un beau message qu'on va essayer d'ailleurs de décliner tout le long des trois jours. C'est le thème du congrès, et tout parlant d'ailleurs de la troisième journée, où on va parler de sérendipité, qui est l'art de trouver des bonnes occasions, sans qu'on ait rien demandé, un peu par hasard, comme ça, avec un certain nombre d'intervenants. Étant entendu que les méthodes un peu scientifiques, ou scientistes en tout cas, les méthodes un peu mécanistes, comme on avait d'ailleurs dans l'orientation, il y a 50 ans, c'était un peu ça. Hein. Vous avez un profil de poste qui était décrit dans un certain nombre de, on dit maintenant de compétences, mais c'est des aptitudes. Enfin, c'est les aptitudes de l'individu qui étaient décrites dans un certain nombre de tests, dits d'aptitudes déjà, puis hop, on essayait de faire coïncider les deux, un peu comme deux pièces mécaniques, sans qu'elles soient aisément l'une dans l'autre. En réalité, c'est plus comme ça que ça marche. Et pourtant, on a gardé encore à l'esprit, et parfois dans certains comportements sociaux ou d'acteurs ou de systèmes, on a encore gardé ce schéma-là, alors qu'en réalité, il fonctionne de moins en moins comme ça. Donc on essaie d'amener un peu à la fois de contradiction, mais un peu de réflexion, et puis des expériences, dans les ateliers notamment du jeudi 23 septembre, qui permettront de donner des idées pour continuer un bout de chemin, et d'ailleurs, encore une fois, pas simplement à l'éducation nationale, même si on est là pour ça, pour l'essentiel quand même dans les CIO, mais c'est pas uniquement ça, mais aussi avec des... Il y aura des ateliers le jeudi 23, par exemple, à la fac de l'Université du Maine, qui seront présentés, par exemple, par l'Institut de développement de compétences, j'en cite un, de CCI Formation, du Mans. Il y aura aussi, on parlera des écoles de deuxième chance, vous voyez, qui n'ont rien à voir directement avec ce qu'on dit là ce matin, mais en réalité, qui d'une certaine manière, dans déjà école de la deuxième chance, il y a déjà l'idée de... Vous voyez, hein, il y a une deuxième chance. Non, c'est pas fini une fois pour toutes. Alors vous allez me dire, c'est plus facile à dire dans certains contextes que dans d'autres. Il y a des enfants, des jeunes, des adultes qui ont plus de difficultés dans certains de leurs contextes, et d'autres plus, à contrario, plus de facilité. Un service public de l'éducation sociale, que nous sommes nous, les CIO et les conseillers d'orientation psychologues, toute sa valeur, toute sa force, c'est d'abord de continuer à vivre en tant que service public, et d'autre part, en tant que service public, de rendre un service à tous et à toutes, et en particulier à des jeunes ou à des parents ou à des établissements qui accueillent des enfants également peut-être un peu moins favorisés que d'autres. C'est ça aussi l'objet de notre activité.
Et la finalité du 59e congrès de la COP, c'est quoi ? Dégager de nouvelles perspectives pour la profession et ses partenaires ?
Oui, nous espérons pouvoir, modestement, en dessiner quelques-unes ou contribuer à en illustrer avec quelques focus sur d'autres. Bon, c'est pas non plus refaire le monde, hein.
Et voilà, ça vous concerne, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouveau sujet lié à l'éducation. D'ici là, restez sur Fréquencier.
Nous travaillons dans l'école de la République.
Et on remercie vraiment les enseignants.
L'entrée de l'enfant dans l'école ne règle pas tout.
Sans les parents, on peut rien faire.
On est, je crois, sur la bonne voie.
Ça vous concerne, le magazine de l'éducation. C'est avec Joanne, la troisième semaine du mois, le mardi à 10h15, le mercredi à 19h15, le jeudi à 15h et le dimanche à 13h sur Fréquencier.
L'école, nous le savons, peut encore mieux faire.